1, 2, 3, 4.
Le manche disque. L'émission qui tourne. À 33 tours minutes.
Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans le manche disque une nouvelle fois sur Radio G.
Bienvenue, bienvenue.
Ici Nico et Julien. Toujours au platine, platine vinyle.
Oui, tout à fait.
Platine une fois vinyle. Tous les 15 jours, pour votre émission référence du disque vinyle sur Radio G. Donc, on va commencer cette émission avec un son à toi, Julien, que tu nous présenteras juste après.
Exactement, c'est parti. Donde estás María, pardon, des Meridian Brothers, ce groupe colombien qui mélange cumbia, expérimentation électro, rythme latin et puis des cordes assez remarquables.
Ouais, vraiment pas mal.
Ouais, c'est assez original.
Ces petits violons qu'on entendait là.
Ouais, complètement, qui ressemblent à des samples mais qui en fait n'en sont pas. Enfin, c'est assez expérimental, c'est colombien. C'est un album qui s'appelle Donde Estas Maria et qui date de 2017. C'est loin d'être leur premier album. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus et puis j'avais juste envie de vous le passer sans présenter non plus le truc de A à Z. Donc les Meridian Brothers.
Ouais, bah c'était bien sympa, mais on va rester dans des destinations un peu tropicales, quoi, puisqu'on va partir en Jamaïque, bon, dans un style un peu plus conventionnel qui est le reggae, mais on n'a pas passé beaucoup de reggae dans cette émission quand même.
Non, finalement,
c'est vrai. On a dû passer un Bob Marley, ouais.
Mais c'était genre la première ou la deuxième année, donc il y a longtemps.
Et puis il n'y a pas que Bob Marley dans la vie en reggae quand même. Et là, pour le coup, on va rester dans un reggae vraiment roots, jamaïcain pur sang. Avec un monsieur qui s'appelle, qui est surnommé Dadawa. Dadawa, de son vrai nom Ras Michael, qui est donc un Jamaïcain, un pionnier du reggae jamaïcain, qui a collaboré avec des grands noms du type Lee Scratch Perry, qui a même participé aux enregistrements de certaines sessions avec Bob Marley and the Wailers notamment. Il a créé donc un groupe de musique très très connu aussi au reggae qui s'appelle Sons of Negus. Il a enregistré aussi et tourné avec Bob Marley, il a enregistré aussi avec des grands noms comme Peter Tosh par exemple. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'ADN du reggae jamaïcain, aussi dans l'ADN du rastafarisme, hein, puisque c'est un vrai rastafari qui a été aussi un ambassadeur donc du rastafarisme et qui l'a diffusé aussi, qui a été aussi engagé au niveau presque ecclésiastique. Quoi.
Tu parles au passé parce qu'il est décédé ?
Non, il est pas décédé. Mais il est plus trop actif, je crois.
Mais je crois pas
qu'il est décédé. Hein, je crois pas qu'il est décédé parce qu'il est, il a dû. Je crois qu'il est né dans les années 50, quelque chose comme ça. Donc il est plus tout jeune du tout. Mais après peut-être qu'il continue son activité, mais on a plus trop de nouvelles de lui, quoi. C'est pour ça que je parle au passé. Mais t'as raison, effectivement. Je crois pas qu'il soit décédé. Peut-être
parce qu'on passe quand même beaucoup d'artistes décédés dans cette.
Ouais, c'est vrai. Bah oui. En vinyle, hein, malheureusement, on commence. Quoique, il y a tout un débat là qui se lance là sur un débat que nous on a déjà ouvert, hein, sur le nouveau marché du vinyle des artistes récents, mais enfin bref, voilà. Donc ça, c'était un album de 1974, hein, donc on était en plein dedans, quoi, quand même, de ce support-là. 1974, je vais vous passer un morceau un peu long qui va bien nous poser, là, un petit reggae sympa, un peu roots, sympathique, qui s'appelle Zion Land. Zion. Ah oui, j'ai pas dit aussi, il a aussi participé à la création du label, justement, Zion Records, que on peut reconnaître notamment à son lion rastafarien sur le label, qui est un grand label de reggae. Et cet album, originairement, me semble-t-il, a été donc enregistré. Je dis originairement parce que j'ai une réaide, moi. Mais il a été enregistré sur un label non moins connu du reggae et non point emblématique, qui est Trojan Records.
Ah oui, c'est le seul que j'aurais pu citer, donc oui, carrément.
Donc on s'écoute Zion Land tout de suite. on espère qu'on vous a pas trop énervé avec ça. Hein.
Non, bien.
On s'est bien posé là. Ah, on s'est bien posé. Et on voulait même se faire un petit kiff là, voir ce que ça donnait en 45 tours. Alors on va faire le test en direct à Mi-Manche Disque. C'est parti.
Attention.
C'est pas mal, hein.
Ça fait presque plus reggae.
C'est pas mal.
Traditionnel, quoi, je trouve, pour ce que j'en connais. Ça y a pas grand chose. Ouais, les voix. Oh.
Bah, les voix sont plus féminines, quoi. Mais ça passe, hein. Ah, moi j'aime bien. Il y a un petit côté indien. Ah, ou peut-être un peu asiatique. Bref, on s'arrête là pour ce test, mais c'est pas mal. Hein. Ouais. On invente des choses comme ça aussi. Ouais. Hein. On peut dire remix.
Excellent. Excellent. Bon, en tout cas, effectivement, très calme, très dub dans la production, hein, comme ce qu'on échangeait en antenne. Ouais. Enfin, il y a un effet de résonance. On a l'impression qu'ils jouent dans une caverne.
Ouais,
on a l'impression qu'ils jouent dans une immense caverne ou qu'ils sont loin. Enfin, ouais, c'est
tellement calme, ouais. Tellement reposant.
Ouais, c'est très tranquille.
On est dans les petites touches chirurgicales à chaque fois, des instruments qui sont pas du tout en train de se superposer, qui font des petits effets d'ambiance. Enfin, tout l'album est comme ça d'ailleurs. Hein. Donc, c'est un album vraiment pour se poser, pour planer, ouais, pour ce que vous voulez.
Assurez-vous d'avoir une platine qui est semi-automatique au minimum et qui s'arrête parce que sinon...
Sinon vous allez user votre stylus pour rien, vous réveillez le lendemain matin et voilà, avoir perdu 12 heures de lecture.
Alors moi je vous propose sur les trois prochains morceaux que je vais vous passer, de faire un petit focus sur l'Italie et puis ce qu'on pourrait appeler la library italienne dont on a déjà beaucoup parlé, hein. Vous avez passé des morceaux uniques en leur genre qui ne passent que très peu à la radio de par leur longueur. Je pense à Sorgini, je ne me rappelle plus.
Ah, j'ai oublié, Sergini.
Sorgini, voilà. Et là, donc, en fait, je vais vous parler d'une production Farfalla Records. Farfalla Records, qui est un label français d'excellence, qui, je vous en avais déjà parlé, a sorti un best-of de library française. Et français aussi, puisque c'est et le best-of et la librairie qui sont français. Et là, en fait, ils sortent un album d'un groupe qui s'appelle 1176. Donc, on peut imaginer que ça se rapporte au mois de novembre 76, parce qu'on est vraiment dans l'esprit. L'album s'appelle Occhio Occhio, et on est vraiment dans une librairie italienne, librairie tout court, mais moderne. C'est-à-dire qu'ils poussent le vice à avoir une maquette vraiment très sobre, avec des morceaux qui ont évidemment leur durée, ce qui est très précieux pour l'usage en librairie qui était faite, et également des petites descriptions du style romantic strings, colorful percussion with a toger second half. Voilà les choses qui servaient à l'époque aux utilisateurs de ces disques pour caler les ambiances des différents films ou documentaires à sonoriser. Donc là vraiment voilà, ils poussent le perfectionnisme jusqu'au bout, les 1176, et je vous propose donc d'écouter un morceau qui se trouve sur la face B et qui s'appelle The Scarab Quest. Alors c'est Heavy Percussion Lead Rhythm with Woozy Moog Spy Guitar and Low Slung Bassline. We'll be right back. voilà pour Okyo Okyo du groupe 1176.
Et on va partir je ne sais pas où, puisque c'est un groupe assez mystérieux qui s'appelle Peps, que je vais vous passer actuellement. Alors j'ai très très peu d'infos, comme je disais, Julien, parce que tu es en face de moi, en antenne. Très difficile de trouver des infos sur ce groupe-là qui s'appelle Peps, qui a sorti donc ce disque en 1980, enregistré au studio de Milan, à Paris, donc par Jean-Paul Malek. Mais alors d'où viennent ces trois musiciens qui forment Peps, qui sont Jacques Foucault, Philippe Vécuy et Sylvain Tchangwe? Je ne sais pas,
S'ils nous écoutent par le plus grand des miracles, qu'ils se manifestent.
Oui, qu'ils se manifestent ou qu'ils créent une page Wikipédia, ça serait sympa. Mais bon, bravo les gars, parce que vous avez fait cet album qui est plutôt pas mal, qui, je le disais, est sorti en 1980 et qui regroupe certains morceaux un peu disco-funk, d'autres un peu plus... un petit peu plus slow, mais toujours dans cet état d'esprit un peu sympa des années de la fin des années 80, qui commence à voir arriver des sonorités un peu plus électroniques, mais ça reste plutôt sympa, et en plus de ça c'est plutôt dansant. Donc je vais vous en donner un petit aperçu avec peut-être un nom que j'aurais dû googliser pour voir en quelle langue c'est écrit. Déjà ça s'appelle Tchoutse Part 1, quoi. Sur la phase B, il y a toutes ces parts 2, mais je vais vous sélectionner là toutes ces parts 1, sous-titre Disco Mix, qui sous-entend peut-être qu'il y a un autre mix moins disco, mais sur un disque qui n'existerait pas. Donc peut-être, je ne sais pas.
Ou un 45 tours non répertorié.
Peut-être. Voilà. C'est tellement mystérieux. Bref, on s'écoute ça, et puis on va un petit peu se dandiner, croire dans les années 80 pour danser sur cette musique folle.
Thank you.
Et voilà pour ce petit coup de peps.
Très bien.
Oui.
Très bien, très bien.
Merci.
Oui.
Enfin, merci à eux.
Je me disais que bah, peut-être t'es allé enchaîner, raconter des choses et tout, mais
bah non, c'est un groupe assez... Comme j'ai dit, j'ai pas d'infos.
C'est discret.
Si, j'ai une petite dernière info, puisque tu m'y invites. C'est un morceau qui est un petit peu connu, en fait. J'ai choisi le morceau le plus connu de Peps, un petit peu connu parce qu'il a été repéré et utilisé dans des compiles, dont une qui s'est pas mal vendue, qui s'appelle Afrofunk Round 2, je crois, ou un truc comme
d'accord,
ça.
D'accord, ouais, donc ils sont quand même.
Il y a des diggers qui.
Sous les radars.
Voilà, il y a des diggers qui ont dit tiens, il est pas mal ce disque, voilà, mais bon, c'est un disque qui vaut rien du tout. Hein. Si vous voulez l'acheter sur Discogs, ça vaut pas. Ça vaut pas cher, quoi.
Eh ben, donc je continue mon petit voyage italien avec la Raccolta Sette Dici de Fausto Papetti. Fausto Papetti, on vous en a déjà très probablement parlé, un saxophoniste italien qui a fait toute sa carrière en enregistrant des morceaux destinés à... Enfin, en enregistrant des albums constitués de reprises de toutes sortes. Hein. Là, par exemple, sur cette 17e récolte, on a Live and Let Die, la suite numéro 3 de Bach, It Never Rains in Southern California, L'Uomo e il Mare, enfin, il y a de tout, de la musique de film, du classique, etc. Tout ça passé à la moulinette Fausto Papetti, de manière à alimenter bah, les dancing et tout ça de l'époque. Et comme vous en parlions la dernière fois pour notre compositeur français Jean-Claude Pelletier,
ouais.
Fausto Papetti glisse très très souvent une de ses propres compositions.
Bah oui. Sinon ça n'a pas intérêt.
Voilà, c'est ça, ça fait un petit peu d'argent en plus. Et en plus, pour lui en tout cas, que je connais un petit peu plus, parce que moi je les collectionne, il faut dire qu'il y a souvent de très belles pochettes avec des femmes tout nous, comme dirait ma petite fille.
Ah oui, tout nous.
Et donc dans ces récoltes, comme il les appelle, il y en a énormément, hein, parce qu'il a commencé à enregistrer dans les années 60 jusqu'au tout début des années 90, donc il y a quelque chose comme 35-40, quelque chose comme ça, raccolté. Donc ces morceaux à lui sont souvent les plus barrés, les plus péchus, les voilà, c'est souvent ceux qui valent vraiment le coup. Et donc là on va se l'écouter d'ailleurs. Il est sur la Facciata B, c'est le dernier morceau, il s'appelle Spletch. We'll be right back. Fausto Papetti, donc, avec cette 17e récolte et une dame sur un siège transparent rouge dont on aperçoit un tout petit peu le mamelon et qui a des cheveux en papier ou ondulé, une espèce de papier tapisserie.
C'est ça, ouais, on dirait des... Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs.
Ouais, des bouclettes en papier
comme des copeaux.
Dorés. Comme des copeaux, exactement.
Comme des copeaux de...
Voilà, toujours des pochettes. Des pochettes d'ailleurs, parfois censurées. Hein,
oui.
On a chopé quelques-unes grâce à toi. Des versions espagnoles dans l'Espagne de Franco.
Exactement.
Il y a des petits cache-tétons, mais dans la photo. Oui,
ce,
quoi,
ne sont pas des stickers. Voilà, ce ne sont pas des stickers, mais effectivement, oui, il y avait une espèce de pudeur à la Facebook. Un peu les mêmes principes.
Ouais, ouais.
Voilà. Et celle-ci, par contre, dont tu parles, on a évoqué la chevelure. Elle est particulièrement artistique, celle-là. Elle est conceptuelle. Il y en a d'autres qui sont un peu moins conceptuelles.
Oui, il y en a qui sont un peu plus.
Qui sont un peu plus calendaires, quoi.
Ouais,
on va dire,
voilà,
si on peut trouver cet adjectif un peu.
Qui est parfait.
Mais bon, un esthétisme quand même de la photographie qu'il ne faut pas non plus minimiser, parce que voilà, c'est très très joli, dans un certain état d'esprit, mais de l'époque d'ailleurs, des années 60-70.
Oui, la 17e récolte, on est...
Voilà, on se libérait un peu, voilà, on se libérait un peu, voilà, on libérait un peu les
donc, durium de Milan, mais là, de Milan, quoi, pour le coup.
Ah voilà, c'est ça.
Je tiens à préciser quand même.
Eh ben, on va rester dans les cuivres, parce que moi, les cuivres, ça fait penser à quoi? Les cuivres, ça fait penser aux brass bands.
Ah bah oui.
Et les brass bands, ça fait penser à quoi? Ça fait penser un petit peu à la Nouvelle-Orléans, à la Louisiane, tout ça.
Ouais.
Et c'était mardi dernier, c'était Mardi Gras.
Mardi Gras Day. Ah.
C'était Mardi Gras Day, donc cet énorme carnaval qui est célébré comme il se doit à la Nouvelle-Orléans, avec des fanfares, des chars et beaucoup, beaucoup de musique, des brass bands dans tous les sens, etc. Et donc, pour un petit clin d'œil à ce Mardi Gras, moi, je voulais vous passer un morceau d'un groupe issu de la Nouvelle-Orléans, justement, qui s'appelle The Meters. The Meters, qui sont considérés comme faisant partie des pères de la funk music, qui ont fait des albums qui ont eu beaucoup beaucoup de succès, qui ont ensuite été multi-samplés par des artistes hip-hop, justement fin 70, début 80 et beaucoup plus tard jusqu'à maintenant. Hein. C'est un groupe essentiel pour tous les amateurs de black music. Je vous ai choisi donc pour ce petit clin d'œil un de leurs plus gros succès qui s'appelle People Say. Je suis pratiquement persuadé, j'ai essayé de retrouver la pub, je ne l'ai pas retrouvée, mais je suis pratiquement persuadé qu'il y a une publicité célèbre et récente française qui l'a utilisée. Alors si vous arrivez à trouver ça, n'hésitez pas à mettre la petite réponse sur notre Facebook, le Manche Disque, si ça vous dit. L'album, c'est Rejuvenation, initialement enregistré en 1974, et donc on s'écoute People Say des Meters.
What do people say?
People say, people say, comme disent les metteurs.
Exactement.
Voilà, un petit côté funk et un petit coucou à nos auditeurs de la Nouvelle-Orléans, c'est qu'ils sont
oui,
nombreux.
Qu'ils sont nombreux, effectivement. Ouais. Et donc, moi, je repars donc une dernière fois pour l'Italie. On avait vu Occhio tout à l'heure avec sa library moderne. Moi, je vais vous passer de nouveau pour conclure ce petit voyage outre-alpin.
Transalpin, mais voilà, outre aussi, notre point de vue.
Exactement. Donc, cette fois-ci, avec Calibro 35, dont on avait déjà passé un morceau, hein. Je vais vous passer un morceau de leur deuxième album, Ritornado Quelli di Calibro 35. Donc, leur deuxième album, le retour de ceux de Calibre 35, qui est un double album, qui pour moi est franchement le meilleur. J'ai eu la chance de choper une réédition qui date de 2020. C'est un double album rempli à ras-bord donc de cette musique de film policier italien, de poliziotesco comme on dit là-bas. Et je vous propose, alors il y a plein de titres qu'ils ont composés eux-mêmes. Je vous propose moi d'écouter une très belle reprise d'un morceau de Riz Ortolani dont je suis très fan, qui est un morceau qui s'appelle Il Consigliori et qui, je pense, je n'ai pas vérifié, mais vient du film du même nom, Il Consigliori de Calibro 35.
Ah, c'était pas mal. Oula, ça la ressonne un petit peu. C'était pas mal, ce Calibre 35, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Hein, ouais, Calibre 35, ouais, c'est vraiment une valeur sûre.
Il y a un sacré son, hein, je trouve, hein, sur les basses et tout, ça envoie du gros.
Ah oui, ça c'est clair, c'est des grosses basses, des bonnes guitares. C'est assez sympa parce que ça fait vraiment musique de film.
Ouais, sur les quatre premiers en tout cas. Après, ils partent un peu dans des explorations un peu plus spatiales.
Ah oui, je suis pas allé plus loin, moi.
Mais c'est les quatre premiers, moi, que je vous conseille. Ouais.
Eh ben oui, et surtout le premier, moi je trouve que le premier, j'ai pris une grosse claque, c'est d'ailleurs le seul que j'ai, mais aussi bien les pochettes que l'univers musical. Et ils se produisent encore, hein, je crois qu'ils tournent un petit peu le Calibre 35. Hein,
en tout cas, ils sont tous en train d'être réédités, certains commençaient à être durs à trouver, ouais. Notamment Traditori Tutti, le quatrième. Mmh. Là, il est réédité cette année, en tout début 2022, donc n'hésitez pas quoi.
Ok, ben impeccable. Donc en parlant de. Enfin là, pour le coup, c'est une édition, mais en parlant de série. À se procurer de toute urgence, je vais vous parler d'une série de vinyles, hein, dont je vous parle depuis le début, puisque j'essaye de les choper tous au fur et à mesure de leur sortie. Alors je crois que j'ai un petit train de retard là, puisque le 9e numéro est sorti. Je vous ai passé normalement un morceau des 7 précédents, donc celui-ci qui est, vous l'aurez deviné parce que votre esprit mathématique est tout à fait affûté, le numéro 8 de la série, donc Jazz is Dead. Je vous en avait parlé de cette série Jazz is Dead dans laquelle Ali Saïd Mohamed et Adrian Yonge s'associent à des grands noms de la musique jazz, mais vraiment jazz au sens large, puisqu'on a eu aussi des grands noms de la musique, de la bossa nova notamment, avec Marcos Valle du côté du Brésil. Et là, ils se sont associés à un autre musicien qu'on n'associerait pas forcément au premier lieu au jazz, qui est Brian Jackson. Donc Brian Jackson, pour ceux qui ne le connaissent pas et à qui ça ne dit rien, ce n'est pas du tout un des Jackson 5 ni même de la famille Jackson, mais c'est le comparse de quelqu'un qui est beaucoup plus connu que lui, qui s'appelle Gil Scott Heron.
Ah oui. Dont on vous avait passé le fameux morceau d'ailleurs.
The Revolution Will Not Be Televised, qui est mon morceau préféré, bien sûr, et je pense celui de beaucoup de fans de Gil Scott Heron. Et on l'avait passé à la toute première émission.
Ouais, c'est ça.
Toute première émission où on avait un petit peu sélectionné nos pépites. Et effectivement, et donc Brian Jackson, c'est en fait le monsieur musique de Gil Scott Heron, qui lui était un poète, vraiment un poète qui se distinguait surtout par sa plume. Et Brian Jackson était celui qui l'a aidé à mettre en musique donc ses poèmes, que ce soit en spoken word ou même plus tard plus chanté, hein, puisque Gil Scott Heron s'est aussi illustré par une très très jolie voix sur d'autres morceaux. Voilà, donc c'est lui le monsieur musique finalement, le comparse musical aux platines et aux instruments surtout, parce que c'est un vrai instrumentiste qui donc a été le partenaire essentiel à la carrière de Gil Scott Heron. Et donc c'est tout naturellement vers lui que se sont portés bien les regards de ces fameux Ali Saïd Mohamed et Adrian Yonge. Ali Saïd Mohamed d'autant plus que, comme on l'a déjà dit, il est issu de la culture hip-hop, hein, puisque c'est un des membres du groupe, pour moi, qui est le meilleur groupe hip-hop de tous les temps, qui s'appelle Tribe Called Quest. Les New Yorkais de Tribe Called Quest aux États-Unis. Brian Jackson et Gil Scott Heron, ils sont extrêmement ancrés aussi dans la culture noire américaine et la culture hip-hop, parce qu'ils ont été aussi énormément samplés. Donc ils ont fait ce 8e opus ensemble. Voilà, Brian Jackson. On va s'écouter un morceau qu'ils ont composé, parce que c'est des compositions à chaque fois qu'ils font. Hein. C'est pas des morceaux préexistants on voit tous les morceaux de toute façon de tous les albums de cette série-là sont écrits par Brian Jackson, Adrian Yonge et Ali Saïd Mohamed. Donc à chaque fois, Brian Jackson, il est remplacé par la star mise en exergue sur chaque volume. Voilà. Ça va être le dernier morceau de la soirée. Ouais. Donc on vous dit à dans 15 jours.
Exactement.
Et puis on vous souhaite une très très belle nuit. On se quitte sur ce petit son jazzy. Baba Ibeji.
Bye bye.
Ciao.